Alors, Cécile Dolbeau m'a chargé de dire un mot de conclusion. Ce serait prétentieux de conclure et de conclure pour fermer, mais c'est plutôt des questions qui sont liées à mon expérience socio-anthropologique, puisque je travaille sur les relations entre l'homme et la technique depuis une trentaine d'années, sur les grandes questions écologiques. Et donc, je vais vous livrer un peu comme un témoin, un petit peu ce que m'a donné à penser, ce que j'ai pu saisir de ce qui a été développé aujourd'hui. Sachant que j'étais en même temps avec Jean-Michel Beignet, qui est un philosophe qui travaille sur le transhumanisme, dans un séminaire que nous animons ensemble à côté, donc j'ai fait des allers-retours. C'était très intéressant, je pense que Jean-Michel Beignet aurait pu, au fond, très très bien conclure ce colloque avec des questions. Et donc je vais vous livrer un petit peu ces questions qui se sont fait jour, enfin sur lesquelles je travaille depuis longtemps, mais qui ont été réactivées par ce que j'ai entendu, et ça fait écho d'ailleurs à ce qui m'est arrivé hier matin. Pour faire très court, je connais un peu ces questions de thérapie et de méthode, puisque j'ai un enfant trisomique autiste que j'accompagne depuis 12 ans dans différents lieux et auprès de différents spécialistes, où d'ailleurs ces techniques tendent à se faire jour. Et je voyais sa neuro-psychologue hier matin qui me disait, au titre de l'entrevue, on parlait de ça, je lui parlais donc du colloque et de cette thématique, et elle me dit en partant, en serrant la main, « Vous savez, ce qu'il y a de plus précieux, c'est l'humain. » Voilà, c'est tout ce qui nous reste. Et au fond, c'est cette question qui était lancinante que j'ai traînée toute la journée entre cette salle et puis celle d'à côté. Alors, à travers ces quelques réflexions, nous sommes dans un monde... Et depuis pas très longtemps, au fond, nous sommes condamnés, ou en tout cas sommés, de vivre avec des machines, alors que nous avons, d'une certaine manière, fabriqué, engendré, conçu, pas nous personnellement, tous, mais enfin, disons, l'humanité moderne. Et cette technique s'est un peu libérée. On voit bien aujourd'hui comment elle prend une place, évidemment, décisive dans la fabrication des comportements, enfin, au sens de Foucault, la normalisation... la définition morale, puisqu'il n'y a plus tellement d'éthique, mais enfin, bon, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est souhaitable, est-ce qu'il faut manger gras, est-ce qu'il faut prendre le soleil, est-ce qu'il faut... Enfin, tous nos comportements alimentaires, sexuels, et la santé, elle est conditionnée, évidemment, par tout ça. Alors, la santé mentale, bon, c'est un terme qui n'est pas propre à ma discipline socio-anthropologique, qui fait même plutôt problème, mais enfin, j'entends à peu près ce dont il est question. Elle n'échappe pas, évidemment, à cette pénétration de la technique ou des machines qui ne sont plus des machines, des outils, le prolongement du bras ou du geste, mais des machines qui commencent à calculer, à computer et surtout à prendre des décisions à la place des humains. Alors c'est ce process, on en a parlé cet après-midi à côté, il est lié peut-être à une faillite de l'humanisme dans le courant du XXe siècle, où après... la découverte des camps d'extermination et la bombe atomique, on a considéré, avec Norbert Wiener, par exemple, que la fabrication d'un homme cybernétique serait peut-être plus... C'est-à-dire de confier aux machines le gouvernement de nos affaires plutôt qu'à notre conscience. Et donc la question qui occupe ce colloque, pour moi, je la situe dans ce mouvement-là. Hein, c'est-à-dire, au fond, qu'est-ce qu'on fait avec des machines pour traiter des pathologies qui, elles-mêmes, pour 95% d'entre elles, sont des pathologies créées par l'homme. Et ça, je voulais le rappeler aussi, les déterminants de la santé aujourd'hui. J'ai fait une mission à l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, pendant plusieurs années, sur les perturbateurs endocriniens. Et toutes ces pathologies, bien sûr, dégénératives de fin de vie, mais aussi l'autisme, les troubles du comportement, l'hyperactivité, sont pour l'essentiel liées à des substances, à une soupe chimique que l'on a libérée dans l'environnement depuis une cinquantaine d'années, donc environ 50 à 80 000 molécules, dont on ne connaît ni les effets immédiats, ni les effets dans la durée, et surtout ni les effets combinés, potentialisés, transgénérationnels, etc. Donc on voit apparaître, puisque nous sommes dans une sorte de grande foire aux aberrations biologiques et génétiques maintenant, des nouveautés dont on ne comprend pas très bien. Alors il y a des choses qui sont un peu étudiées, d'autres qu'on découvre comme des phénomènes émergents, et puis il faut faire avec ça. Alors la question que je poserais, au fond, c'est comment, dans une institution scientifique, enfin, puisque nous sommes tous un peu représentants d'un collectif, de pensée, de recherche, de questionnement, et auquel on demande de plus en plus d'apporter des solutions, quelle pourrait être une posture souhaitable, acceptable dans cette affaire. Je pense, donc je l'ai dit, hein, ces machines, il ne s'agit pas d'envisager de s'en départir. Nous n'avons qu'à apprendre, je fais référence à ce que disait l'intervenante, la dernière intervenante, et en particulier l'assistante sociale, qui dit « Paro, je vais devoir apprendre à l'aimer hein, », quelque chose de cet ordre-là. Et c'est le philosophe Jean-Michel Simondon qui nous disait « Il ne faut pas refuser, évidemment, la technique, mais il faudrait que nous ne soyons pas en fusion avec les machines, mais que nous soyons plutôt amis, que nous apprenions à cohabiter avec nos machines et qu'il faut pour ça mieux les connaître. Et pour en connaître bien les ressorts, et en particulier quand on crée des dispositifs, hein, c'est le cas de la plupart des dispositifs de psychologie expérimentale dont on a fait la restitution aujourd'hui, ces dispositifs très complexes ont pour moi, appellent en tout cas un regard pluridisciplinaire. Je vous dis ça parce que je pense que nous vivons une sorte de malencontre dans l'institution scientifique, et je le vois puisque je siège depuis de nombreuses années comme directeur de laboratoire, de pôle du CNRS, etc., dans des institutions pour distribuer des subventions, des bourses de thèse, allouer des contrats de recherche. Je vois une ligne de crête, ou une ligne de césure plutôt, s'opérer entre les sciences expérimentales. Et cette ligne de césure dont je parle, elle coupe même la psychologie en deux maintenant, laissant d'un côté la psycho, on pourrait dire, inspirée de la psychanalyse, des sciences du langage, du signe, du symbole, du code, et la psychosociale également, coupée des neurosciences qui sont en train, évidemment, de prendre de l'ampleur dans une époque qui est effectivement vouée à la technique. Et pour moi, c'est assez problématique, puisque d'un côté, on a un mouvement de la technoscience hein, qui a tendance, on pourrait dire, à produire de plus en plus, à expérimenter et à s'immiscer dans la vie quotidienne, puisque les expérimentations qu'on nous a présentées, je ne peux pas m'empêcher de les voir aussi comme étant la fabrication d'un nouveau milieu et des conditions de vie qui sont celles, par exemple, des gens en fin de vie dans les EHPAD ou des malades pris en charge dans les institutions publiques. C'est-à-dire chacun de nous, potentiellement, demain, après-demain. Et donc cette césure, elle laisse d'une certaine manière, je le vis en tout cas un peu comme ça, les humanités, et on pourrait dire la conscience critique, un peu seule, et elle laisse ce mouvement de la technoscience partir, on pourrait dire, sur une trajectoire qui est, pour le coup, un peu incertaine. Je suis désolé si j'apporte une sorte de modération ou de perspective critique, mais je souhaitais que mon intervention soit celle-ci. Alors l'enjeu pour la recherche, pour aller très vite, il est double. Le premier, je viens de le citer, c'est d'envisager une pluridisciplinarité entre les sciences expérimentales ou les sciences, les neurosciences, les sciences vraiment liées à la technique et les sciences humaines et leur héritage, non pas seulement en invitant les sciences humaines, les humanités, comme on disait autrefois, hein, dans l'université ou dans les grandes écoles, à servir de conscience morale d'une certaine manière, ou de cache-sexe à la mise en œuvre de pratiques expérimentales, techniques, mais à les associer dans la définition même des objets de recherche. Voilà. Et c'est un peu dans ce sens que j'essaie d'emmener notre laboratoire, le CEREV, ou le pôle pluridisciplinaire de la Maison de la Recherche, que je co-dirige avec un biologiste moléculaire qui s'appelle Gilles-Éric Ciralini et qui est connu pour ses travaux sur les OGM et les maladies environnementales. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième, c'est l'enjeu éthique, que j'appellerais aussi anthropologique. Dans cette affaire, pour aller très vite quand même, il faut rappeler que l'humanité, ça signifie deux choses. L'espèce humaine, le biologique d'un côté, avec le corps, le soma, etc., y compris le cerveau, hein, qui est une sorte de machine peut-être les plus complexes qu'ait produit l'univers pour l'instant, ce que nous connaissons. Et de l'autre, l'anthropologie, c'est le souci de l'humanité de l'homme, c'est-à-dire ce qui nous fonde en tant qu'être humain avec nos systèmes de croyances, nos valeurs, et ce que nous considérons comme étant acceptable ou non acceptable. Donc une question que pour moi pose les pratiques auxquelles j'ai assisté à travers les restitutions d'aujourd'hui, c'est au fond dans quel monde voulons-nous vivre et avec quel type d'humanité. Et donc ça rejoint ce que je viens d'exprimer, c'est-à-dire que le plus grand danger serait de laisser s'installer cette espèce de césure entre le monde des valeurs, du sens, du sentiment, du monde vécu d'une part, et puis le monde de la technique qui, pour le rappeler très brièvement, Jacques Ellul l'avait défini comme ça dans les années 50, et le monde de l'efficience, de la performance, et ces machines, vous voyez bien que dans quelques années, pas quelques dizaines d'années, hein, mais dans quelques années, elles auront atteint encore des potentialités littéralement exponentielles. Donc je pense qu'il faut avoir une réflexion, une auto-réflexivité dans nos pratiques sur tout ça. Je m'adresse surtout aussi aux jeunes gens qui sont là, étudiants, futurs chercheurs, et à intégrer ces questions dans nos pratiques. Le problème étant celui-ci, mais je vais peut-être terminer par là pour essayer de conclure et de faire une pirouette. Au fond, c'est l'humanité qui a effectivement produit la technique, mais ce qu'il ne faut pas considérer, c'est que la technique est neutre. Elle est tout sauf neutre. La technique construit, fabrique le monde, elle fabrique le milieu dans lequel, au fond, nous sommes destinés à vivre. Et donc, en retour, elle nous constitue. Le téléphone portable, les écrans, le fait de disposer aujourd'hui de mémoire artificielle, de silicium, de processeurs, de calculateurs, nous constitue, comme espèce humaine et comme genre humain, un genre qui est très différent de l'humanité qui nous a précédés. En cela, c'est une question d'enjeu éthique. Et donc cette transformation de l'humain, vous voyez qu'elle peut conduire à une sorte de boucle tautologique où on va fabriquer un monde de plus en plus technique, qui va fabriquer des humains de plus en plus apprêtés à un monde technique, etc. Et on aboutit à une sorte de processus d'effacement progressif de la conscience, ou en tout cas de ce que j'appelle le socle anthropologique qui constituait notre humanité. Voilà. Donc je vous invite, tout en poursuivant ces travaux dont, évidemment, on ne peut pas remettre en cause la légitimité, puisque c'est la santé. Hein. Et la santé, c'est quelque chose qu'on ne peut pas discuter. Mais il faut savoir aussi qu'une grande partie de ce qu'on met en place dans le domaine de la santé sert de banc d'essai pour des pratiques qui vont ensuite se généraliser ou s'appliquer à d'autres domaines dans la société. Voilà. Et que ça fabrique, au fond, le monde dans lequel nous allons devoir, encore une fois, apprendre à vivre, et c'est pas forcément très facile. Hein, donc on est dans une société où il y a moins de névrosés peut-être qu'avant, et plutôt des dépressifs, pour des raisons sur lesquelles, par exemple, Alain Ehrenberg a beaucoup travaillé. Moi, ça m'intéresse en tant que sociologue. Maintenant, je vous invite, encore une fois, avec toute la foi qui m'anime, à envisager la coopération pluri- et voire transdisciplinaire comme étant absolument nécessaire, si l'on veut conserver ce souci d'humanité à travers la science. Voilà. Merci à tous. Et merci, évidemment, pour terminer, à tous ceux qui ont participé, animé avec aussi beaucoup de ferveur ce colloque. Serge Tisseron, Olivier Duris, ma collègue locale Cécile Dolbeau-Bandin. Donc voilà, je vous souhaite plein de bonheur dans la recherche. Et